Bonjour et bienvenue dans ce groupe de partage du samedi 16 novembre 2013. Voilà, nous sommes ici à Romainville autour d'une table dans cette fraîcheur hivernale, 6 degrés à l'extérieur, et nous nous réchauffons avec du yogi tea. Alors, je vais faire un petit son de cloche pour démarrer le groupe, pour inviter la conscience à se rassembler. Merci. Bon, c'est dans cette présence que ce groupe Initiation à la non-dualité est invité à se dérouler. Dès à présent, je confie la direction de cet après-midi, de ce groupe, à l'esprit, la part de moi qui n'est ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la dualité, et qui peut me diriger dans ce que je dis ou ce que je fais. Et je le fais au moyen de 5 phrases qui surviennent à la page 30 d'un livre qui s'appelle Un cours en miracle, et qui disent ceci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Et à travers ces phrases, j'appelle à moi une confiance totale, absolue, dans tout ce qui va se passer cet après-midi. Et j'en profite aussi pour saluer et appeler cette confiance de la part des nombreux frères et sœurs qui par la suite nous écouteront au travers de cet enregistrement. Alors cet après-midi, nous pourrons aborder quelques directions que je vais citer. Nous pourrons aussi parler de nos vies quotidiennes, des petits ou grands miracles qu'elles contiennent, des petits ou grands désagréments qui nous empêchent de rencontrer les miracles, mais qui sont soigneusement prévus comme des pierres angulaires, comme des marqueurs dans notre vie pour nous faire avancer, nous faire réfléchir, nous faire faire de meilleurs choix dans notre vie. Alors nous pourrons parler de ce que veut dire le terme illusion que nous employons pour désigner ce monde que la tradition indienne et hindouiste nomme samsara. Nous pourrons parler de ce que c'est que la réalité, le monde réel, de cette phrase aussi qui revient souvent, nous sommes un, malgré les apparences, de cette possibilité qui dit, seul l'amour existe, tout le reste étant imaginé. Et nous pourrons parler du processus de pardon véritable et le différencier du pardon social, nous pourrons dire cette phrase très courte qui résume à elle toute la non-dualité. Dieu est. Et la laisser prendre tout son sens et toute son expansion. Nous pourrons aussi définir la dualité. Qu'est-ce que c'est que ce monde duel? Et à quoi sert-il? Et au sein de cette dualité, qu'est-ce que l'ego, cette partie de notre esprit qui pense être séparée des autres? Qu'est-ce que les différentes dimensions dont on fait part, dont on parle dans la spiritualité, 3D, 4D, 5D, etc. Nous pourrons parler des différences entre expérience humaine, expérience spirituelle, et comment l'un rejoint l'autre. Comment également changer sa vision, changer notre vision sur le cours des choses ou sur les événements qui arrivent dans ma vie, comment les interpréter et comment le bonheur véritable ne peut être contacté qu'à l'intérieur. En nous détachant de toute chose matérielle ou extérieure. Voilà, c'est une liste non exhaustive, bien sûr. Et bienvenue à tous ceux qui écoutent et qui sont curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces mots, ou qu'est-ce qui se trame derrière cette apparente réalité d'humain sur Terre, qui parfois peut révéler des choses inattendues au moment où nous avons un miracle, ou des distorsions, ou des parties extatiques, des parties où tout d'un coup je me sens connecté à quelque chose de très vaste. Donc bienvenue à toi qui écoutes pour te joindre à nous une des prochaines fois dans la mesure du possible pour alimenter en direct cette initiation à la non-dualité. Alors je me sens guidé à commencer par parler de ce que veut dire Dieu est. Dans la non-dualité ou l'unité, nous parlons de Dieu comme étant la totalité de l'existence, de tout ce qui existe, tout le vivant, mais le vivant incluant tout ce que nous voyons, minéral, animal, végétal, humain, et tout ce que nous ne voyons pas également, tous les mondes subtils, anges, archanges, toute forme de guide spirituel. Voilà, Dieu est tout ce qui est. Et Dieu est tout ce qui est nous amène à dire que Dieu ne peut jamais juger quoi que ce soit puisque ce serait une partie de lui-même. Ce serait lui-même qui serait jugé. Et donc Dieu ne juge en rien. Dieu accueille tout, toutes les expériences, toutes nos expériences, qu'elles soient agréables ou conflictuelles, que ça parle de crime, désolation, génocide ou méditation profonde, amour inconditionnel ou paix profonde, tout cela fait partie de ce que Dieu est et donc ne peut pas être jugé, ne peut pas être condamné, rejeté par Dieu. Et Dieu l'accueille, l'observe, ne le juge pas. Et ça peut nous amener à parler de qu'est-ce que le monde illusoire, qu'est-ce que le monde réel. La seule réalité étant Dieu, tout le reste est illusoire. Et la qualité principale qui existe dans le monde réel, c'est l'amour. C'est un état inchangeant, invariable, invulnérable, qui n'est pas soumis aux lois du temps et de l'espace. Et cet amour est permanent. Et ce qui caractérise l'illusion, c'est que les choses y sont impermanentes et que tout ce qui est impermanent, selon la non-dualité, selon aussi quelques phrases d'un cours en miracle, tout ce qui est impermanent n'est pas réel. Tout ce qui est permanent est réel. Tout ce qui ne peut pas être changé est réel. Donc Dieu est réel, l'amour est réel, la joie, la paix, tout ceci sont des caractéristiques de Dieu qui sont réelles. Tout ce qui est dérivé de la peur est imaginé, et tout ce qui un jour cessera d'être est aussi imaginé, et constitue ce qu'on appelle l'illusion, puisque c'est impermanent et c'est imaginé. Alors pourquoi y a-t-il un monde imaginé en face d'un monde réel ? Dans notre perception, et qu'est-ce que cet état de fait implique dans nos vies de tous les jours. Donc nous sommes dans cette illusion-là pour tester, pour jouer à que serait le monde si, que seraient les choses peut-être si nous n'étions pas divins, s'il y avait un opposé à l'amour, et pour collecter des expériences de dualité, justement. Même si la dualité n'est pas réelle, est une illusion, alors elle est quand même source d'expérience dans notre esprit, notre esprit qui joue à se croire séparé. Et dans cette collection d'expériences, progressivement, par contraste, nous apprenons à, sans aide extérieure, à revenir à un monde d'amour que nous n'avons jamais quitté, mais nous avons pensé le quitter, nous avons imaginé que c'était possible. Et il est dit que toutes ces expériences vont servir lorsque plus tard nous enseignerons comme des maîtres à d'autres civilisations, toutes les expériences que nous avons faites dans la dualité, de manière à enrichir l'éventail des expériences possibles. Donc c'est un grand jeu, une grande pièce de théâtre, faite avec des moyens magistraux, de manière à ce que nous soyons convaincus qu'elle est réelle. Et n'oublions pas que nous sommes des êtres divins qui vivons une expérience humaine. Et donc, avec nos capacités divines, nous avons façonné cette expérience humaine de manière à la rendre, dans notre perception, comme réelle, comme intangible, comme permanente, même si nous ne vivons pas les choses de manière permanente. Et donc, il se trouve que, étant des êtres divins, nous avons apparemment fractionner notre esprit. Bien sûr, tout cela est fait dans une sorte de rêve. C'est pour ça que ceux qui sortent du rêve sont appelés les éveillés. Nous avons apparemment fractionné notre esprit entre une partie pur esprit, que le cours miracle appelle Saint-Esprit, qui ne rêve pas, qui est dans l'amour, qui est dans le royaume de Dieu, mais qui en même temps a aussi un pied dans notre rêve, dans notre illusion, et qui fait le pont entre les deux mondes, et qui est là pour nous fournir de l'aide en toute situation lorsque nous nous rappelons de faire appel à lui. Ce que j'ai fait au début de ce groupe, en citant les cinq phrases qui m'invitent à le laisser diriger la réunion. Alors, ce pur esprit a une vue globale sur toute la réalité, sur tout l'amour, mais aussi sur tout le temps et tout l'espace, ce qui fait que chaque question a sa réponse lorsqu'elle est posée au Saint-Esprit, puisque sa vue est globale et chaque problème a déjà sa solution lorsque la question est posée au Saint-Esprit et que je me mets à l'écoute de la réponse avec mes antennes que peuvent représenter l'intuition ou simplement la méditation ou le fait de me centrer dans ma paix intérieure, dans mon amour, dans ma joie, le fait de me réjouir et puis d'être tout simplement ouvert à ce qui se passe dans l'instant présent. Donc en fonction de mon état d'esprit, en fonction de ma vision, je vais pouvoir avoir une interprétation ou une autre d'une situation, d'un problème, d'une question. Je peux la voir avec mon ego, la partie qui se croit séparée des autres, qui se croit coupée de l'amour et qui règle ses problèmes en s'opposant aux autres. Je dirais croire régler ces problèmes, puisque les problèmes, en fait, ne sont pas réglés pour autant. Et cet ego professer la seule chose qu'il sache, c'est moi et mon frère sommes séparés. Moi et Dieu sommes séparés. Et donc, va me conduire à des manifestations, des réactions, à de la réactivité qui vont aller dans ce sens, c'est-à-dire renforcer la perception que toutes choses sont séparées. Et donc, là où il y a problème, ça va être de nature à renforcer le problème. Si on m'attaque et que je me défends en attaquant, alors évidemment je n'ai rien réglé, j'ai renforcé l'attaque et j'ai renforcé la division apparente entre la personne qui est en face de moi, que nous appelons entre nous nos frères et sœurs, puisque nous sommes tous d'une même source, tous d'une même famille. Et quelqu'un disait, un seul esprit avec 7 milliards de visages. Quelqu'un d'autre disait, quand je me réveille le matin, je me réveille 7 milliards de fois. Tout ça, ce ne sont que des images pour décrire cette réalité qui, dans notre monde, a pris des aspects séparés, comme si l'étincelle divine, l'unité de Dieu, avait pu se fragmenter en des milliards d'étincelles qui représentent toute la totalité de Dieu. Voilà, Dieu est, ça veut dire aussi que je suis une partie, un fragment, une vague de l'océan qui est Dieu. Et donc, comme tout est holographique, Chaque partie représente le tout. Et donc je suis Dieu également. J'ai en moi ces attributs d'amour, j'ai en moi ces attributs d'accueil, de non-jugement, ces attributs de paix, de joie, et surtout ces attributs de création à l'infini par extension. Donc lorsque je me réjouis, lorsque j'aime, je fais grandir l'amour et donc je fais grandir l'unité, je fais grandir par création, par vague de création. Et dans l'humanité, notre rôle, c'est de partir d'un noir apparemment absolu, d'une absence de lumière, et de retrouver le chemin de la sortie du labyrinthe par nous-mêmes, sans aide extérieure, au moyen de nos expériences et au moyen aussi de nos guidances de le monde subtil que nous conférer lorsque nous nous reposons un peu de notre agitation mentale et que nous demandons de l'aide. Alors récemment j'ai diffusé une vidéo de Muji, un sage parmi les humains qui vivent actuellement sur Terre. Il parle de son modèle. Il dit comment c'est arrivé. C'est arrivé parce que j'ai demandé de l'aide. Je l'ai demandé sincèrement et honnêtement. C'est arrivé d'un coup. C'est arrivé d'une manière indicible. Une énorme chose dont il dit qu'il peut reconnaître sans aucun doute que ce n'est pas la création du monde. Belle vidéo qui est sur le site Être Plus dans la catégorie Petites annonces et spiritualité. Une vidéo où la voix de Muji est extrêmement apaisante pour moi. Comme si la paix qu'il a trouvée maintenant rayonnait de lui. C'est ça le processus de création également. Par la paix qu'il a connue, il donne, il enseigne la paix. Et cette paix-là est extrêmement touchante lorsque nous entendons le ton de sa voix, lorsque nous entendons la simplicité des choses dont il parle et aussi l'humour avec lequel il parle de choses. Et la personne qui est en face de lui lui demande si tout ce que tu dis est vrai, mais alors comment vivre ma journée au quotidien? Comment ça s'applique au quotidien? Et il y a cette réponse fabuleuse qui dit: n'essaye pas de vivre ta journée au quotidien. Laisse la vie vivre ta journée à travers toi. Je ne vis pas ma journée, moi. Je la laisse se dérouler. Je laisse le vivant vivre cette journée. J'essaie de vivre ta journée dans le fond de ta journée. Parce que la laisse se vivre, alors ça se passe une excellente journée, instant par instant. Et donc certains êtres comme Muji et des dizaines et des dizaines d'autres sur Terre ont eu cette révélation du divin, cette révélation de l'absolu, cette révélation du tout dans un monde relatif. Et ils nous servent de balises, ils nous servent de retransmetteurs de cet amour absolu qu'ils ont contacté et qu'ils peuvent à présent rayonner, hein, comme des balises qui retransmettent un signal pour l'amplifier, hein, pour le faire, le rendre manifeste dans notre monde. L'expérience spirituelle commence lorsque nous nous posons les vraies questions, lorsque nous suivons nos vrais désirs, lorsque nous nous rendons compte que notre but sur Terre, c'est d'être heureux, quelles que soient les formes que nous employons pour le faire. C'est pas un seul humain qui n'est pas ce but. Et que notre but, c'est également d'aimer sans condition et d'être aimé sans condition. Il n'y a pas non plus un seul humain qui ne souhaite pas ces deux choses-là. Et donc, quand nous savons que nous partageons cela, nous avons fait un pas vers l'unité. Pourquoi ? Parce que ces choses-là, dans notre esprit, sont communes. Et nos esprits sont joints à travers ce désir d'amour et de bonheur. Et c'est ce qui fait que nous nous réunissons aujourd'hui dans la froidure de l'hiver qui s'approche autour de cette table. C'est ce qui fait que toi, tu es devant tes haut-parleurs à te demander qu'est-ce qui va bien pouvoir être dit et comment ça pourra bien résonner en toi. Et résonner est le bon terme puisque nous employons nos vibrations internes qui résonnent pour faire résonner d'autres vibrations en écho à ces vibrations-là, comme si une cloche faisait sonner une autre cloche, rien que par sa présence, sa proximité. Et ces vibrations-là, ces questions-là existentielles, qui peuvent aussi survenir grâce à des épreuves dans la vie. Tout d'un coup, il me semble que la vie me donne une grande claque. Ou tout d'un coup, il me semble que la vie me donne un moment de joie ineffable. Et dans les deux cas, je réfléchis à ma condition d'humain. Est-ce que c'est vraiment ça, mon but, de venir, de souffrir, d'être périssable, d'être impermanent. Est-ce que c'est vraiment ça le but ou est-ce qu'il y a un autre but? Est-ce qu'il y a une autre voie que celle que nous connaissons et que nous répétons sur cette planète à des milliards d'exemplaires? Et c'est parce qu'il y a une autre voie que certaines personnes comme Helen Schuckman ont reçu des voix dans leur tête en réponse à la question « Il doit bien y avoir une autre voie que ces conflits incessants entre nous. » Et ces voix intérieures ont abouti à la rédaction d'un cours en miracle qui s'est étalé sur de nombreuses années. Et un enseignement qui parle de l'amour véritable, de la réalité, de l'ego, de l'illusion et du pardon véritable comme instrument pour passer de l'illusion à la réalité, pour changer d'interprète dans ce monde, pour revenir d'une vision séparée avec l'aide de l'esprit pur qui réside en moi à une vision unifiée qui est Dieu est. Mon frère et moi sommes un, même si ce frère semble m'injurier ou m'agresser, me traiter de tous les noms. Ce frère-là est un frère d'amour qui agit ainsi pour me rappeler qui je suis sous des formes qui peuvent sembler étranges. mais qui peuvent me conduire aussi aux bonnes questions. Et qui a passé un contrat d'âme avec mon âme pour jouer ce rôle dans ma vie à ce moment précis, afin que ma vie puisse prendre un tournant, ou puisse prendre le bon tournant, celui du retour à la maison. Donc lorsque je commence à changer de vision sur les événements du monde, sur ce qui m'arrive ou sur ce qui ne m'arrive pas, alors la voie du retour est entamée. Hein, le premier pas est amorcé, qui enchaînera les suivants. Et ce premier pas, comme disait Krishnamurti, est le seul pas, puisque c'est le début et la fin. Il enchaîne et contient en lui l'énergie de tous les autres pas. Alors, comme je décris ce monde humain comme une illusion, il va de soi que nous sommes déjà hors de cette illusion, que nous sommes déjà dans la réalité, que nous ne l'avons pas quittée, que nous sommes dans un monde rêvé, et que tout semble dire que nous nous sommes endormis un court instant pour rêver d'exil, pour rêver d'autre chose que de la réalité ultime de tout ce qui est de Dieu, comme des poissons qui seraient sortis de l'eau et qui n'ont qu'une hâte, c'est qu'ils retournent. Donc la réalisation ou l'éveil, c'est simplement prendre conscience que je ne me suis jamais séparé réellement de l'unité avec Dieu, que cette unité a toujours été là, mais j'ai voulu jouer à un jeu qui consistait à croire que autre chose que la réalité pouvait exister, autre chose que tout ce qui existe. Et par cette formulation, nous voyons l'absurde de cette illusion. Tout ce qui existe ne peut pas avoir quelque chose en dehors de lui. C'est absolument impossible puisque c'est tout ce qui est. Voilà, donc nous avons doté notre esprit d'une partie divisée pour sembler croire que cela est possible, hein, que cela est réel aussi. Et nous vivons un monde que certains appellent relatif, parce que c'est notre réalité relative par rapport à un monde que je peux appeler la réalité absolue, c'est-à-dire la seule qui soit vraie, la seule qui représente la vérité, qui représente tout ce qui existe et dans laquelle il n'y a pas de peur, il n'y a que l'amour, il n'y a que la joie, que la félicité, et c'est amené à s'étendre en permanence, à grandir en permanence, et c'est à jamais non menaçable. Voilà, bienvenue à vos questions et bienvenue à vos expériences, à la fois toi qui écoutes, où tu pourras formuler ces questions et ces témoignages par téléphone. Et puis nous pourrons même collectivement y répondre par le biais d'email, ou toi qui te trouves ici dans la pièce pour poser ta question, cette expérience de vie qui pose question par rapport à l'unité de ce qu'il est, qui semble éloigné de cette unité ou proche de cette unité dans notre vie de tous les jours, puisque que ce soit proche ou éloigné, est toujours relié au sujet du jour. Puisque lorsque c'est proche, nous pouvons décrire comment, à notre manière, nous arpentons le chemin du retour. Et lorsque c'est éloigné, alors nous pouvons trouver une autre façon d'interpréter cet événement dans le sens de l'unité de toute chose, avec le pardon de l'éternel. Voilà, et tout ce qui peut être dit est parfait, et devra être dit pour que nous puissions aussi donner les réponses parfaitement guidées à ces éléments. Merci.
Ça semble, il y a quelque chose qui semble invraisemblable. Ce qui semble invraisemblable, c'est qu'on a une expérience humaine auquel on est habitué. Chacun d'entre nous, nous sommes dans un monde très duel, mais qui paraît normal pour tout le monde. Et voilà, on ne pose pas de questions. Vous sortez dans la rue, vous pensez aux uns et aux autres, qu'est-ce que vous voyez ? Soit un corps d'homme, soit un corps de femme. Et ça, à 7 milliards d'exemplaires. Vous êtes dans une certaine religion. Maintenant, les catholiques, vous voyez des prêtres, ils sont tous des hommes. Vous ne voyez pas de prêtres femmes, ça vous paraît normal. Et tout est comme ça à l'infini. C'est-à-dire qu'on trouve une réalité qui nous paraît normale, et en fait, on est complètement comme drogué, comme. Les choses sont comme ça, c'est tout. On voit des corps qui meurent, on voit des accidents, on voit des plein de choses, et tout ça fonctionne. Et tout le monde se dit dans le lundi matin, et on va au boulot. Et puis de l'autre côté de la planète, eh bien, c'est le lundi soir ou c'est la veille. Et tout ça fonctionne et nous paraît normal. Et puis, il ne s'agit pas d'aller regarder autre chose parce que quoi ? Parce qu'en fait, ce qui importe peu, c'est pas ceci ou cela. Ce qui importe, ce qu'on veut, ben, c'est être heureux. Et donc, depuis qu'on est tout petit, qu'on a commencé à avoir une réflexion sur nous-mêmes, qu'on a commencé à, disons, absorber le sens d'une individualité particulière, on a envie d'être heureux. Et cette individualité particulière, dans ce monde duel, elle a été bloquée. Elle a été rejetée, niée. Elle a été... On a dit, tu dois faire ça. Et nos sociétés sont bâties sur le droit, par exemple le droit juridique. Des droits, des devoirs. Et dans tout un système qui paraît normal. Mais profondément, l'existence, c'est quoi ? Alors un courant miracle nous dit qu'effectivement... tout ça, c'est un monde irréel, mais qui semble réel. Et c'est très bien, mais la chose, c'est qu'il y a souffrance, il y a culpabilité et peur. Et personne n'a envie d'avoir peur, c'est très désagréable. Et personne n'a envie de se sentir coupable, c'est très désagréable. Et personne n'a envie d'avoir mal physiquement dans son corps, c'est très désagréable. Dans l'expérience, même si c'est pas réel. Donc il y a donc quelque chose qui est paradoxal, c'est en même temps quelque chose qui n'existe pas, mais qui semblerait exister et qui semble apporter de la souffrance qui est vécue comme réelle. Alors on s'en occupe. Et c'est justement pour ça qu'on est ici. Et le courant miracle nous dit qu'au milieu justement de ce dilemme, de cette question fondamentale, mais que l'on fuit quelque part, parce que ça paraît intellectuel. Oui, mais ça c'est intellectuel. Comment c'est intellectuel ? Mais c'est extrêmement concret. Voyons. Ah non, il ne faut pas regarder, il faut, on se taise, c'est un mystère, il faut aller, il faut faire des sacrifices, il faut se mépriser, il faut souffrir, il faut en baver, il faut gagner son pain la sueur de son front, etc., etc. Et indéfiniment, ça revient. Et le courant miracle nous dit, ton frère est ton sauveur. Ça veut dire, c'est par tes relations. D'accord, c'est un monde absurde, c'est un monde insensé, en anglais « insane world », mais c'est la manière dont tu le vois qui est insensé. C'est, tu le vois séparé, tu vois des choses séparées, donc tu vois des choses menacées partout, y compris ce à quoi tu t'identifies, c'est-à-dire un corps particulier, homme ou femme. Ce corps, ben, puisque tu es identifié au corps, tu sais très bien qu'il va s'arrêter tôt ou tard, soit par accident, soit par je ne sais pas quoi, enfin bref. Et donc c'est terrifiant, donc tu te balades toujours avec cette mort virtuelle, terrifiant, tu es terrifié. Et donc tu te balades aussi avec cette impression que tu es méprisé par les autres, qu'il faut te faire valoir, qu'il faut essayer de gagner leur amour parce que tu penses manquer d'amour. C'est ça la séparation. C'est la séparation de l'état d'être. Alors le cours nous dit encore une fois, ton frère est ton sauveur. Pourquoi ? Parce qu'il te permet de rechoisir ce que tu veux. Comment tu veux ? Ton frère est ton sauveur parce qu'il te permet de dire, je veux voir clair. Donc je veux voir clair avec... mes relations. Oui, mais l'autre, il peut avoir ses croyances, il peut me mépriser. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est moi. Ma vision, mon ressenti, qu'est-ce que ça me fait là ? Savoir que, par exemple, Muji, dont parlait Avi, alors était plus ou moins éveillé, enfin on dit éveillé, etc., ceci, cela, très bien. Mais moi, qu'est-ce que je fais au milieu de ça ? Moi, je pleure de je veux être aimé, je veux être heureux, je veux me sentir aimé, je veux aussi aimer et me sentir aimé, je veux être joyeux, heureux, rire, m'amuser, être bien physiquement, être bien dans ma tête, mentalement, être bien... émotionnellement, avoir un ressenti profond de joie. Voilà ce que nous voulons tous. C'est normal, c'est évident, parce que c'est en même temps l'essence de l'être, c'est qui nous sommes. Mais on a oublié. Et comme dit le courant miracle, vous n'imaginez pas à quel point cette simple petite pensée de séparation, ce que ça entraîne, ce que ça engendre l'univers entier qu'on voit. Et à ce sujet, justement, si je parle des relations, c'est parce que Si mon frère est mon sauveur, ça me permet de rechoisir. Mais qui est mon frère ? Ben c'est l'expression de la vie. Bien sûr, apparemment, il est séparé. Bien sûr, apparemment, c'est ici, sur cette planète, un homme ou une femme. Quelles que soient ses croyances, ses tendances sexuelles, pansexuelles, c'est comme ça que ça apparaît. Mais on est tellement habitué qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça. Très bien. Et nous arrivons maintenant à une période où ça commence à s'ouvrir, ça devient poreux là, on commence à regarder ailleurs, vers d'autres frères et sœurs, d'autres êtres, qui sont quoi ? Qui sont moi, qui sont l'expression de la vie, qui sont l'un, le tout, qui sont Dieu exprimé, c'est-à-dire le vivant. Mais on est tellement habitué à cette petite planète et puis à son petit monde qu'on ne se rend pas compte. Mais comme les choses s'accélèrent très rapidement, on peut commencer à se poser des questions. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'ordinateur. L'informatique se faisait avec des cartes perforées. Il n'y avait pas de téléphone portable il y a 20 ans. Maintenant, ça paraît évident et tout est comme ça. Donc, il y a une technologie. Et ça nous paraît normal et on a du mal à imaginer ce qui se passait il y a 20, 30, 40, 50 ans et plus. Et puis, on commence à regarder vers l'extérieur et on voit d'autres technologies. Et on est piégé par cette technologie, on est piégé par la forme, par la matière. Et on cherche quoi ? De l'argent. On cherche un nouveau système financier. On cherche à, pour se sécuriser, pour éviter d'avoir mal dans le corps, on cherche donc à manger plutôt bio, plutôt, c'est très bien. Mais c'est pas là que ça se place. C'est pas dans la forme. C'est pas dans la technologie. C'est dans l'amour, c'est dans l'esprit, c'est dans ce qui existe, c'est dans la réalité que nous sommes. Et c'est pour ça que nous allons maintenant, et c'est l'heure, d'avoir des contacts qu'on dit extraterrestres et intraterrestres, et ça va galoper d'ailleurs dans les années qui viennent, ça va être magnifique. Et on va voir des technologies, on subodore, on soupçonne des technologies extraordinaires, mais observons que des êtres qui ont une technologie extrêmement avancée par rapport à la nôtre, qui se déplacent à travers l'univers dans des vaisseaux spatiaux, qui peuvent se dématérialiser et se rematérialiser, eh bien ces êtres peuvent être centrés sur eux-mêmes, peuvent avoir des peurs, peuvent être mal quelque part. Alors bien sûr, ils vont crâner, comme on dit, ou vont faire les malins en apparence, mais profondément, il y a derrière tout ça une souffrance. Alors quoi ? Mon frère et mon sauveur, quel qu'il soit, que ce soit un homme, une femme terrestre, que ce soit un extraterrestre, c'est une occasion quoi ? Une occasion de quoi ? C'est une occasion de m'ouvrir, moi, pas les autres, moi, de m'ouvrir à une relation amoureuse et de dire je t'aime, de dire tu es l'expression, comme disait Jésus, du Père, le Père, la source, parce qu'il n'y a que la source. Et donc cette phrase, effectivement, Dieu est, il n'y a que Dieu, il n'y a que l'existence, l'existence est, la vie est, tout est, donc effectivement tout être est divin, complètement. Extraterrestre, intraterrestre, humain, tout ce qu'on veut, animal, un merle, une étoile, tout ça, cela est. Ça semble séparé. Donc la vision que j'en ai, elle n'est pas juste, elle est fausse. C'est pour ça que le courant miracle parle de perception juste et de perception fausse. C'est l'heure. Parce que c'est un plan divin, c'est l'heure d'avoir des relations amoureuse, entre nous, je dis entre nous humains, et également entre eux, avec des extraterrestres, parce que c'est dans le plan divin, parce que tout est divin. Donc cet univers que nous pouvons contempler le soir surtout, lorsque le soleil est passé de l'autre côté et que c'est la nuit qu'on regarde les étoiles, et qu'on voit d'ailleurs que quelques étoiles de notre galaxie, alors qu'il y a, on peut estimer, 350 milliards d'autres galaxies, et que dans notre galaxie, il y a 240 milliards d'étoiles. C'est hallucinant. Et là, cet univers extraordinaire, gigantesque, que notre mental ne peut pas appréhender, tout ça, effectivement, c'est imaginé. Parce que ça change de forme, et peu à peu, on peut calculer la vie d'une étoile, 5 milliards d'années, 6 milliards d'années, et puis ça change, ça disparaît, ça renaît, ça se recrée, ça disparaît. Quand je dis ça se recrée, on va dire ça se rematérialise. Et nous voilà devant tout ça. Dans notre petit quotidien. Alors on peut dire, oui d'accord, c'est bien ça, mais moi je veux être heureux, c'est juste. Et donc c'est pas par des technologies, c'est pas par ça, c'est pas parce qu'on va trouver des nouveaux systèmes financiers. Des nouvelles manières des nouvelles énergies. C'est par la vie elle-même, c'est par l'amour que nous sommes. Et cet amour, on ne peut pas le commander parce que nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà, il n'y a que ça de réel. Donc d'une manière pratique, là, on se trouve là, maintenant, tout de suite là, vous qui écoutez cet enregistrement. Mais on peut simplement se dire, mais le Saint-Esprit dont parle le cours, l'Esprit d'amour, Dieu, la vie, l'amour, cela est, c'est éternel. Et comment est-ce que l'amour ou Dieu ou le Saint-Esprit voit justement ce monde gigantesque, terrestre et extraterrestre? Il le voit dans la paix. Attention. De respirer, de s'arrêter, de faire comme un arrêt sur image et se dire, ben, je me laisse ressentir la vision de l'esprit qui voit tout dans la paix. Le Saint-Esprit est en gratitude perpétuelle. Dieu est en gratitude perpétuelle devant sa création. C'est-à-dire devant l'extension de lui-même. Et c'est par cela qu'on accède à autre chose. Cette autre chose, d'ailleurs, ce n'est que la vraie réalité de nous-mêmes. Alors, bien sûr, dans cette expérience humaine, il y aura toujours perception. Mais comme dit le courant miracle, à ce moment-là, cette perception devient une perception vraie, ou juste, on va dire, une perception juste. En anglais, « right perception ». Et donc, mon frère est mon sauveur. Donc, c'est pas demain que ça se passe. C'est pas quand on va avoir des nouvelles technologies, quand on va avoir un nouveau système financier ou de nouvelles manières de cultiver notre nourriture. Vous savez, c'est maintenant que ça se passe. C'est en moi que ça se passe. C'est pas chez les autres. Et ça vient de mon désir de voir autrement. Ça vient de mon désir de voir quoi ? Mais de voir la réalité de ce qui est. Dieu est tout ce qui est. L'amour est ce qui est, il n'y a rien d'autre. C'est ça que je veux. Donc c'est l'heure maintenant de décider ce que nous voulons voir. C'est pour ça que tout vient d'une décision. Une décision pour ce qui est vrai et non pas pour le faux. Non pas pour l'imaginaire et l'illusion. Bien sûr, l'imaginaire et l'illusion sont utilisés. Comme dit le Coran Miracle, ce monde a un but. Et le but, c'est l'éveil. Il avait un but au départ qui était s'amuser à être séparé. Maintenant, le but, c'est le but du Saint-Esprit, c'est se réveiller. Donc, cette multiplicité illusoire, cette dualité où tout nous paraît séparé, où on tourne nos yeux humains, on peut voir différemment. Le cours nous dit les yeux du corps sont faits pour ne pas voir. Et oui, c'est fait pour voir des choses qui sont séparées. Donc, quand le cours nous dit « les yeux du corps sont faits pour ne pas voir », ça veut dire « les yeux du corps sont faits pour donner l'illusion que les choses sont extérieures au corps que je crois être ». Donc c'est fait pour ne pas voir que tout est un, que tout est en moi, que je ne suis le tout et que nous sommes un. Et on peut dire que toute l'expérience, c'est ça le but, c'est fait pour ne pas voir, pour avoir l'illusion d'être séparé. Et c'est très très bien fait, c'est magnifique. Encore une fois, c'est fait avec deux, disons, ingrédients fondamentaux, l'identification au corps et le temps linéaire qui semble se dérouler, alors que le temps n'existe pas, parce que le temps nous donne l'impression, l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. En d'autres termes, ça nous donne l'illusion que nous ne sommes pas totalement créateurs de notre expérience. Voilà. Et qu'on dépend de l'extérieur. C'est faux. Nous, puisqu'il n'y a que Dieu, et il n'y a que son expression que nous sommes, et donc ça, c'est parfait. C'est infini, et c'est infaillible. Donc s'il y a jeu de séparation, s'il y a décision de jouer à la séparation, c'est obligatoirement en toute connaissance de cause. En sachant très bien ce que nous faisons. Mais c'est tellement bien fait qu'il y a oubli. Et nous voilà, effectivement, en train de, comme des fantômes qui tâtonnent, et on se balade en disant, allez, il faut survivre, il faut essayer, on attend Noël, on attend la fin de la semaine, le week-end, pour pouvoir souffler un peu après le boulot qui nous harasse, on attend, je sais pas quoi, une augmentation au boulot, on attend de draguer telle ou telle personne, on attend ceci ou cela, on attend d'être reconnu, on attend d'échapper à la police ou à la douane ou à je sais pas quoi. Bref, on attend de gagner aux élections, on attend que l'équipe de foot gagne, je sais pas. C'est absurde, ça n'arrête pas. Et en même temps, quel est le regard du Saint-Esprit par rapport à ça ? C'est un regard amoureux. Ah ça m'intéresse. Ça m'intéresse de changer complètement mon regard par rapport à ce monde, effectivement, qui, si on le regarde clairement, est totalement absurde, et le cours en miracle en parle très clairement, le monde de l'ego est un monde insensé, retors, menteur, calculateur, qui cherche à prendre, tellement il y a de souffrance, on cherche à prendre, à posséder. Mais ça, c'est personne, ça. Ça, c'est imaginé. C'est totalement imaginé, et là, on commence à comprendre l'importance de la prise de conscience que c'est vraiment imaginé, que c'est pas réel. Non, ce qui est réel, c'est qui nous sommes, c'est Dieu et tout ce qui est, c'est là, il n'y a que l'amour et rien d'autre, donc tout est amour. Alors effectivement, on peut commencer à respirer tranquillement, un peu plus tranquillement, et se dire, mais je choisis autre chose. Je veux ressentir la paix de l'esprit, la paix de Dieu. On admet qu'un maître est en paix. On l'admet ça, qu'un maître comme Jésus, par exemple, est en paix. D'ailleurs, il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais pourquoi il est en paix? Mais c'est forcément qu'il y a une autre vision, il y a une autre vision, c'est évident. Mais c'est ça que je veux. Alors on va dire, oui, mais d'accord, mais tu veux, mais voilà, c'est raté, mais ben, Jésus, c'est Jésus, il a de la chance, lui. Et puis Mouji, il a de la chance aussi, et puis l'autre a de la chance. Non, non. Non, non, parce que quelle est la réalité? Et là, ça me concerne moi, dans mon petit microcosme, là où je suis, dans mon petit monde, là. Ça me concerne moins, parce que quelque part, quand je démarre ma journée le matin, je me réveille, ben, je suis face à ma journée. Et je suis seul face à ma journée. Qu'est-ce que je veux à ce moment-là? D'accord, je suis mangé par toutes des pensées, de peur, des choses à faire, les enfants me fatiguent, au boulot c'est infernal, ceci, cela, peut-être. Peut-être pas d'ailleurs, mais je fais exprès de prendre des situations, des exemples de choses qu'on connaît tous et que les gens autour de nous connaissent très bien. Donc, qu'est-ce que je décide à tout moment, parce que c'est toujours l'instant présent, je peux à chaque fois rechoisir, c'est ce que nous dit le cours en miracle. Mon frère, choisis à nouveau. Brother, choose again. Choisis à nouveau. Choisis quoi? Ben, choisis ce qui est vrai. Choisis ce que tu veux vraiment. Quelle est ton intention? Ah oui, mais j'ai tout gâché, je me sens nul, je suis désespéré. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide à qui je suis, qui nous sommes, ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Je demande de l'aide à cette partie en moi que j'ai oubliée, mais qui est moi-même. Aide-moi. Tout à l'heure, Ravi nous parlait de Mouji qui a effectivement connu un certain éveil quand il a demandé de l'aide. Alors souvent, j'ai entendu ça, mais oui, mais ça fait 20 ans que je demande de l'aide et j'en ai pas. Voilà. Et on a ces réflexions-là. Je comprends. Mais c'est l'instant présent. Et dans l'instant présent, il n'y a pas de temps. L'instant présent est le seul temps qui soit. Et donc c'est maintenant que ça se passe. Et donc si j'ai la pensée, depuis 20 ans je demande de l'aide et j'en ai pas, ou c'est désespérant, je refais toujours les mêmes erreurs, etc. Dans l'instant présent, je peux toujours choisir. Et là je touche à quoi? Je touche à la confiance. C'est vrai. Ça demande de la confiance. Donc, ça peut paraître lourd, difficile, imaginer, parce que comme c'est toujours l'instant présent. Et je peux être en prison depuis 5 ans, 10 ans, mais dans l'instant présent, je suis là. Et on voit par exemple cet Américain qui a la douleur de la mort, et qui a complètement changé sa vision intérieure, qui rayonne l'amour, parce qu'il est dans l'instant présent. Et donc il peut avoir par moments des moments difficiles, mais il est en amour par rapport à ses gardiens, même par rapport au système juridique qui l'a condamné alors qu'il a payé entre guillemets pour la société, pour son frère qui a commis ce qu'on appelle un assassinat. Ce frère d'ailleurs qui est dans le couvert de la mort, il rayonne la joie intérieure. Parce qu'il rechoisit à chaque instant. Il est un exemple pour nous. Et on peut tous être des exemples les uns pour les autres. Comme dit le cours en miracle, tout nous enseigne. Donc tout est enseignement pour moi, mais c'est vous qui écoutez ces paroles, c'est votre affaire. C'est toujours votre affaire, c'est pas l'affaire des autres. Alors bien sûr, on vit dans un monde où on a créé des systèmes, des religions. Et si vous voulez regarder les religions les unes après les autres, sans aucun jugement, vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de contradictions, que c'est simplement des constructions humaines qui visent à bien faire, bien sûr, et qui ont un rôle qui joue, utile au sens de l'éveil général comme tout, comme il court miracle. Vous ne savez jamais pourquoi sont faites les choses. Tout est fait dans le meilleur de vos intérêts. Donc, tout ce qui se passe est utile, est une aide. En anglais, dans le cours en miracle, la phrase c'est « Everything is helpful ». Tout est une aide. Donc, je vous explique n'importe quoi, l'islam, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, c'est une aide. C'est pas la vérité en soi, simplement c'est une aide. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de notre imaginaire et que cet imaginaire est utilisé par l'esprit. C'est aussi simple que ça. L'esprit que nous sommes tous. Parce qu'il n'y a que l'esprit, il n'y a que Dieu, il n'y a que l'un. Et donc l'imaginaire, ce monde imaginé, eh bien, est utilisé. L'illusion est utilisée à plein. Et donc dire que c'est une illusion ne veut pas dire que ce n'est pas utilisé. Toute situation, n'importe quoi, une émission de télévision, tout, un brin d'air, tout ça est à la place. Tout à l'heure, avant même de commencer à parler, je sais, j'en ai parlé tout à l'heure, cette notion aussi extraterrestre, parce que ça va être l'heure maintenant d'avoir davantage de relations concrètes avec nos frères qu'on dit de l'espace. Ça fait partie du plan divin. Et l'important, c'est pas la technologie, puisqu'on s'aperçoit que les êtres qui ont une technologie très avancée sont, font des expériences avec les êtres humains, ont cherché justement à faire des expériences parce qu'ils ont peur, ils ont des problèmes, même s'ils ont des technologies, ils ont des problèmes inimitables. Certains qu'on appelle les petits jeunes. Ils ont des problèmes apparents, c'est eux qui les créent ces problèmes puisqu'ils sont divins, mais c'est tout. Donc c'est pas la technologie, c'est pas les vaisseaux spatiaux de se balader à travers l'univers qui est important. L'important c'est l'amour. Et c'est pour ça que nos nouvelles relations avec nos frères extraterrestres, ce qui est fascinant, c'est justement c'est l'amour que nous partageons. Je peux témoigner que depuis un certain nombre d'années, j'ai eu, par personne interposée, énormément de contacts avec des êtres qu'on dit extraterrestres. Et qu'est-ce que j'ai observé ? Sans aucune exception. À chaque fois, c'est une occasion pour moi d'avoir une relation amoureuse avec eux. Et quand il y a présence, il y a la joie d'être ensemble. Ils ne sont pas venus me dire, voilà, tu vois, tu vas faire ça, ceci, cela. Bien sûr, à des moments, il y a des petits signes. Il me dit, tu vois, on peut faire ceci, cela. On a une puissance énorme. Énorme. On peut faire tout. On ne le fait pas parce qu'on vous respecte, parce qu'on vous aime. Donc on respecte votre chemin, votre choix d'incarnation. On respecte votre éveil, qui est notre éveil aussi. L'éveil de l'un et l'éveil de tous, un courant miracle. Et donc nous allons maintenant avoir de plus en plus de relations amoureuses avec des êtres d'autres dimensions. Clairement, je ne vais pas cacher, c'est de devenir clair, mais ce sont des relations amoureuses vers ça. Bien sûr, il y a des technologies, des petites choses. Vous avez pu certainement, vous qui entendez ces paroles, vous avez certainement des expériences comme ça. Ça peut dire tout. Je sors de chez une amie qui est en grande banlieue, et puis j'arrive devant la. Il n'y a personne dans la gare, je suis seul, et je dois prendre un ticket pour passer le portillon pour prendre mon RER à Paris. Et là, je dis, ben, qu'est-ce que je fais, etc. Il n'y a personne, et tout d'un coup, j'entends clac, et je vois devant moi, j'ai touché à rien, j'ai même pas de. Et j'entends, je sens, tu vois, on peut tout faire, même t'ouvrir la porte. Mais c'est tout comme ça. Et j'ai eu des choses même beaucoup plus fortes que ça en apparence. Mais n'oublions pas ce que dit le premier principe du miracle, le numéro 1. Il n'y a pas de degré de difficulté dans les miracles. L'un n'est pas plus dur ou plus difficile qu'un autre, ou plus grand qu'un autre. Tous proviennent de l'amour. De toute façon, les miracles, c'est une illusion qui sont dans notre monde. Mais on peut dire que tout ce qui provient de l'amour est un miracle. On peut dire aussi, comme dit le cours, que nous sommes un miracle, parce que nous provenons de l'amour, nous sommes l'amour même. Alors ça change tout. Alors c'est vrai que ça demande de la confiance. Mais c'est ce que nous faisons ici. Et ce groupe ici chez Avid, par exemple. Quels sont les témoignages? Eh bien, ça m'aide. Merci pour ce partage. Merci parce que ça m'aide. Parce qu'effectivement, on sait très bien que les uns les autres, nous avons des expériences souvent qui ont pu nous paraître difficiles. De plus en plus, nous avons des expériences de plus en plus joyeuses. C'est vrai aussi. Mais nous avons autour de nous des frères et des sœurs qui peuvent hurler de douleur ou de désespoir. Nous le savons très bien. Nous sommes là pour témoigner, non pas pour rentrer dans leur jeu, parce qu'on ne rentre pas dans un cauchemar, pour dire « je suis en compassion, je comprends ». Et vraiment, maintenant, on pleure de compassion, vraiment. On dit « mais je comprends pourquoi tu... » Mais oui, je comprends ton désespoir. Je le comprends, mais je sais que tu vas très bien. Évidemment, on ne va pas le verbaliser comme je suis en train de le faire. Mais notre travail, justement, c'est de redonner à l'autre qui il est. Il va très bien. C'est le namasté. Donc, je le dis ici clairement, les 7 milliards que nous sommes, y compris tous ceux qui hurlent de désespoir, tout le monde va très bien. On peut se sentir très mal, d'accord, mais on va très bien. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, on me dit « Alors, salut Sylvain, comment vas-tu » Tout de suite, même si je me sens lourd, ou si je peux avoir être fatigué, je peux avoir le sentiment d'être fatigué, mais je vais très bien, même si je me sens pas bien. Et tous mes frères et sœurs vont très bien. Parce que tous mes frères et sœurs sont Dieu lui-même exprimé, manifesté, sont la création de Dieu. C'est ce que nous dit le cours en miracle. Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Dieu s'émerveille de sa création. Donc, Dieu s'émerveille de chacun et chacune d'entre nous. Mais vraiment. Et c'est ça que nous sommes invités à ressentir, à prendre du temps, de nous arrêter, faire un arrêt sur l'image. Prendre des respirations. Respirer. Et puis dire, voilà, je veux sentir ça. Je veux ressentir l'esprit qui... En anglais, le terme qui watches over you, qui est au-dessus de toi, non, qui te câline, qui te protège, qui t'accompagne en permanence. C'est ce qui se passe. Nous sommes tous en permanence. Et notre âme profonde le sait. Notre âme profonde a choisi cette expérience et notre âme profonde sait que tout va bien. Même si nous avons l'impression d'aller très mal. C'est vrai que ça demande de la confiance. C'est pour ça, encore une fois, que dans le cours en miracle, dans la troisième partie, le manuel pour les enseignants de Dieu, eh bien là, quand il décrit les caractéristiques des enseignants de Dieu, la première des caractéristiques fondamentales ici, c'est la confiance. On ne peut pas faire l'économie de la confiance. C'est vrai que c'est une expérience apparemment difficile, lourde, dans cette expérience humaine. Ça demande de la confiance. Confiance en quoi? En la réalité, en la vérité, en l'amour, en l'existence, le fait qu'on soit là. Le fait d'être et l'être, ça ne peut être qu'amour. On a confiance en cela. C'est tout et c'est tout avec un T majuscule. C'est pas une plaisanterie. Alors bien sûr, on peut rire puisque tout va bien, puisque finalement, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, donc tout va bien tout le temps. Donc, il y a des moments, mais c'est la fête, on rigole, on s'amuse. À d'autres moments, ça paraît plus sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de cris de douleur sur cette planète. Et donc, chaque chose en son temps. Par exemple, là je suis en train de parler, ça paraît un peu sérieux, c'est vrai. Mais sachez que les êtres avec lesquels je travaille le plus, de manière concrète dans ma vie, les gens, tout le temps, on s'amuse, on fait des plaisanteries, on rigole. Et j'ai des contacts. Des amis, des êtres. Mais vous n'imaginez pas la joie, le rire, les plaisanteries qu'on a ensemble. Bien sûr, et en même temps, il y a un grand sérieux. Parce qu'on est ici en compassion. On est ici en relation amoureuse. Et ça vous concerne, vous qui écoutez ces paroles. Vous pouvez le ressentir dans votre cœur maintenant. C'est comme ça, c'est ça. C'est ce que nous sommes en train de faire ensemble. Nous sommes en train de nous réveiller ensemble. Comment ? Par des relations amoureuses. Alors on comprend comment Père Lecour nous dit, ton frère est ton sauveur, ton frère ou ta sœur, bien sûr. Parce qu'il te permet de rechoisir. Ton frère est ton sauveur aussi, ton frère extraterrestre, intraterrestre, ton frère des étoiles, tout ce que tu veux. N'importe quel être, c'est ton sauveur parce qu'il te permet de rechoisir comment tu veux le voir. Et tu demandes de l'aide en disant, voilà ce que je veux. Donc ton désir peu à peu s'affine, s'affirme et s'affine et devient beaucoup plus clair. Tu n'as plus des désirs contradictoires. Parce que tu n'as plus un désir dans des formes illusoires qui n'apportent jamais rien de stable, de permanent. Ton désir, c'est un désir amoureux. C'est un désir de ressentir, de recevoir et de donner l'amour. Et l'amour se donne, tu donnes, tu donnes. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Comme dit le cours en miracle, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc quand tu donnes vraiment l'amour, c'est pas te déposséder de possessions matérielles, c'est pas du tout ça. C'est vraiment donner à l'autre qui il est. À ce moment-là, ça te permet, toi, de peu à peu ressentir qui tu es. Et le cours nous dit très clairement, et je cite, « Pour tout avoir, donne tout à tous. » Pour tout avoir, donne tout à tous. Mais c'est en conscience, bien sûr. C'est, je donne à l'autre qui il est, je lui donne. C'est comme Dieu qui se donne infiniment dans sa création à l'infini. Il est lui-même exprimé. Il est accueil total, absolu. Donc c'est ce que nous faisons aussi. Nous accueillons. Nous permettons. Nous voyons notre désir. Nous clarifions notre intention, qui devient une intention totalement amoureuse. Nous permettons ce qui est là. Nous permettons le processus divin. Et nous nous abandonnons totalement à l'esprit. Comme des petits enfants totalement confiants. Et ceci en totale humilité. En sachant que de nous-mêmes, nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien, comme disait Jésus il y a 2000 ans, de moi-même je ne fais rien, c'est le Père en moi. Et c'est un peu ce que disait Mouji, et ce que Avi nous partageait tout à l'heure en disant, Mouji, mais ne cherche pas à vivre ta vie, laisse vivre ta vie à travers toi, laisse la vie vivre, vive ta journée, ne cherche pas à vivre ta journée, laisse ta journée être vécue à travers toi. Et on va dire, mais oui, mais alors à ce moment-là, on fait rien, mais pas du tout. Le silence, effectivement, il y a un silence, il y a un souffle. Et je fais des expériences et je perçois que ce que je vis devient de plus en plus de miracles. Il y a de plus en plus de miracles pour moi. Et même si par moments je semble faire des choses qui ne sont pas sérieuses, à moi-même ou à d'autres, bien ça, ça porte des fruits. Et je vis de plus en plus une expérience d'harmonie. Et non seulement je la vis cette expérience d'harmonie, mais je m'aperçois que j'ai des témoignages autour de moi qui corroborent cela, qui le confirment. Et vous savez très bien de quoi je suis en train de parler, parce que c'est ce que vous êtes vous-même en train de vivre. Peut-être pas tous les jours, peut-être pas d'une manière aussi claire tout le temps, c'est vrai. Mais profondément, c'est vers ça que nous avançons ensemble. Alors c'est vrai qu'on va avoir des relations un peu nouvelles, de relations aussi, on parle de relations de couple nouvelles, d'accord, mais c'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on pense, c'est pas des relations améliorées dans des marchandages amoureux, pas du tout. Rien à voir. C'est à voir avec la plénitude. Relations amoureuses. Invitation à venir complètement, à revenir à ce qui existe, ce qui est réel et non menacé. Et donc à ouvrir notre cœur et à laisser l'amour nous diriger d'instant en instant. Encore une fois, dans les cinq phrases que Avi nous a citées tout à l'heure, la troisième, elle est vraiment pour toutes circonstances. Elle répond à énormément de questions qui sont posées par les uns et les autres. C'est la suivante. Je ne vais pas me soucier ni de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Voilà. C'est dans l'instant présent, la seconde présente, le seul instant qui soit. C'est valable pour tout, sans aucune exception. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Bien sûr, mon ego va me dire, oui, mais il y a des attentes, j'ai mes enfants qui attendent, ou j'ai mon banquier qui attend, ou j'ai, je ne sais pas quoi, ou au boulot, j'ai mon patron qui attend quelque chose, je sais. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et on a bien dit dire et faire. Parce que faire ou ne pas faire, c'est pareil. Si je décide de ne pas faire quelque chose, c'est aussi un faire. Et si je décide de ne pas dire, de rester muet, c'est aussi un dire. J'ai un choix. C'est fondamental, c'est simple, mais c'est la clé. La clé, c'est l'amour. C'est l'amour expérimenté dans l'instant présent. C'est l'amour expérimenté dans l'instant présent.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est incroyable le fait que ça confirme d'entendre tout ça. J'ai une soif de connaître ça. Alors j'y ai touché une fois, et par peur, comme disait Avi tout à l'heure, comment vivre après dans le monde avec. En fin de compte, par peur de l'inconnu, de ce que l'esprit va me demander, à un moment donné, j'ai fait le choix de rester dans le connu. Et depuis, en fin de compte, maintenant que j'ai vu les effets sur moi, dans mon corps physique, dans mon mental aussi, il n'y a qu'une chose qui compte maintenant, c'est retrouver ça. Alors. C'est vrai qu'en me posant, en respirant plus profondément, ça a amélioré le physique déjà, et du coup, ça a amélioré aussi le moral, le mental, et ça me donne l'envie, ça me donne de l'élan, de la pêche pour pour retrouver cet état d'unité. C'est pour ça que j'ai une soif d'entendre tout ça, d'entendre des expériences de personnes qui connaissent ce que moi je connais pas, même si j'ai eu un tout petit aperçu. J'ai vraiment vraiment envie de ça, quoi. C'est plus important que tout. Alors j'ai l'impression que tout ce qui est dit, aussi bien ce que tu as dit tout à l'heure à Vie ou là Sylvain, j'ai l'impression que c'est vraiment pour moi. Ça m'est délivré là, rien que pour moi. Et c'est génial, quoi. Je suis vraiment contente d'être là. Voilà ce que je voulais dire.
Tous reliés, c'est-à-dire que quand on est, par exemple, ce que vient de dire Sylvie, ben c'est partagé. Jésus nous dit, il n'y a pas une seule expérience qui n'est pas partagée par toute la filialité, c'est-à-dire par tout le monde, parce qu'on est relié, on est un. On a joué à un jeu de séparation, c'est vrai, dans l'apparence, donc on s'est amusé à se classifier un peu avec nous. Quelque chose de phénoménal qui demande d'ailleurs beaucoup d'énergie, oui, pour aller s'incarner, aller commencer se glisser dans un corps, parce qu'on emploie ces mots-là, on ne sait pas très bien comment ça marche, cette histoire d'incarnation et d'identification à un corps. Et on a dépensé beaucoup d'énergie, mais en fait, on est relié. Comme on est totalement créateur et qu'on vit nos croyances, on a fait en sorte d'avoir l'impression, l'illusion d'être séparé, donc ça devient une croyance. Et donc on en vit la réalité. Mais en réalité, on n'est pas séparé. Et c'est pour ça que le fait de parler de la non-dualité, de parler de l'amour, d'exprimer notre désir amoureux, a un impact énorme. Parce qu'en fait, il n'y a que l'amour qui est réel. Donc, c'est comme ça que ça marche. L'éveil de l'un, c'est l'éveil de tous. Quand on a des pensées de haine, des pensées d'attaque, de défense, de protection, de peur, eh bien, ça a effectivement apparemment un impact. Mais c'est pas réel. Et donc, quelque part, ça tourne en rond. Et ça ne produit rien. C'est difficile de dire ça parce que ça paraît. Je parle à l'intérieur du rêve. Et quand dans le rêve, on a la moindre pensée d'amour, ça aide tout le monde à sortir du rêve. Donc quand on partage comme ça, vous êtes en train de déjeuner avec quelqu'un, par exemple, et vous parlez justement de non-dualité, vous parlez de manière positive, constructive, avec sans jugement, dans la compassion profonde de vos frères et sœurs, eh bien c'est un impact considérable. Lorsque Jésus nous disait il y a 2000 ans, et c'est dans les évangiles, c'est connu, que deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est pas au nom de Jésus de Nazareth, c'est au nom de l'amour. Donc l'amour est au milieu d'eux, l'amour est là. Et c'est Jésus est totalement identifié aux apôtres, comme dit le courant. Là, on a un impact. C'est pour ça qu'on nous parle, qu'on nous dit que vous êtes le levain dans la terre. Parce que ceux qui écoutent cet enregistrement font partie d'une minorité, temporairement. C'est reconnu. Il y a une minorité, il y a un processus. C'est pour ça que même dans les 50 principes des miracles, au début, dans le cours en miracles, dans les 50 principes, il y a un des principes qui dit « Les miracles sont offerts, donnés à ceux qui temporairement ont moins, par ceux qui temporairement ont plus. » Le temps n'existe pas, ça veut dire... Donc, ceux qui font des miracles, ce sont effectivement... Il y a davantage de miracles exprimés, apparemment, par des frères et des sœurs qui sont plus conscients. Et c'est pour ça qu'encore une fois, quand vous avez la moindre pensée d'amour, quand vous décidez le matin d'offrir votre journée et d'être plus dans l'amour, en fait, ça a un impact considérable. C'est ça le levain dans la pâte. Parce que ça touche le réel. Ça permet au réel d'être de nouveau expérimenté dans ce monde illusoire. C'est toujours des façons de parler, bien sûr. Il ne s'agit pas de se... discuter sur les concepts, parce que ça, on n'en sort jamais. Les mots sont utilisés pour nous aider à passer au-delà des mots. Ce que je veux dire ici, c'est que j'ai souvent eu ça, par exemple, je suis avec quelqu'un, et puis je parle avec passion de la non-dualité, de la confiance. Je suis avec quelqu'un pendant 3 heures, là, en train de prendre un café quelque part, par exemple. Eh bien, cette interaction à deux, elle a un impact considérable. Voilà. Et donc, vous qui écoutez ces paroles, vous pouvez vous sentir un peu isolé dans votre monde, là où vous êtes. Eh bien, si vous avez simplement une attitude amoureuse, ce que j'appelle une attitude d'ouverture de cœur, c'est un impact considérable, un impact que vous ne soupçonnez pas. Voilà. C'est comme ça. À cause de qui nous sommes.
Cette soif de spiritualité, cette soif de nous éveiller, dont tu parlais, Sylvie, nous l'avons tous. Mais parfois, elle est perturbée par des expériences que nous souhaitons faire, qui semblent s'éloigner de notre nature. Mais il y a une phrase qui peut, pour moi, résumer un peu tout ça. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Alors, ça veut dire que j'ai des expériences à faire, et lorsqu'elles sont faites, c'est alors que je peux passer à autre chose. Et là, alors, le maître apparaît pour me dire où aller et quoi faire. Tout ça, c'est très symbolique, bien sûr, et le maître, ça peut bien être le Saint-Esprit à ce moment-là. Mais notre réunion d'aujourd'hui est basée sur l'amour. Et ceux qui sont présents pour un but d'amour. Et se sont donné rendez-vous ici pour apprendre quelque chose, pour enseigner quelque chose. Il y a maître et élève en même temps. Et chacun est les deux aussi. Et donc... Pourquoi il y a des expériences négatives sur Terre? Pourquoi, Sylvie, tu fais l'expérience dans ton corps et dans ton esprit, dans ton mental, de la souffrance? La souffrance, c'est comme le baromètre, l'indicateur que je me suis éloigné de l'amour. Et sans la souffrance, il n'y aurait pas le but de faire cesser la souffrance en revenant à l'amour. C'est comme sans la douleur dans notre corps, on aurait des fractures multiples dans tous les os. Et certains enfants qui ont une anomalie génétique et ne ressentent pas la douleur sont très menacés dans leur vie parce qu'ils ils se font mal, ils se brûlent, ils se cassent des membres et ils ne s'en rendent pas compte. Donc ça paraît étonnant, mais la douleur et la souffrance a une utilité. C'est un signal d'alarme. C'est veux-tu continuer à choisir ce qui n'est pas l'amour? C'est la question qui est posée par la souffrance. Et en effet, nous sommes des collecteurs d'expériences et nous ramenons toutes nos expériences au divin parce que nous avons des sens pour collecter des choses et pour créer des choses aussi. Donc nous créons des choses, nous les ramenons au divin pour étendre le divin. Et nous collectons des expériences par nos sens et nous ramenons aussi ces expériences pour agrandir le divin. Et ces expériences sont de nature multiple, hein, elles sont de nature douloureuse pour nous, elles sont de nature aimante pour d'autres, mais en vérité, l'esprit qui vit ces expériences ne connaît pas la souffrance. Pour lui, c'est neutre, c'est une expérience. Donc cette expérience a un sens et ça a toujours un but d'amour, même quand c'est une expérience souffrante. Parce que nous éloigner de l'amour, ça nous donne envie, ça nous donne soif d'y revenir, hein, comme pour reprendre tes termes. Donc oui, j'ai souffert, j'ai eu peur, je me suis retranché, j'ai eu peur de l'inconnu, j'ai vu quels étaient les effets de la peur. J'en ai fait l'expérience et maintenant, fort de cette expérience, je décide de choisir autre chose. Et c'est l'enseignement primordial du cours. Ton frère est ton sauveur parce qu'il te permet de rechoisir. Et la situation aussi nous permet de rechoisir. Alors, comment rechoisir dans la vie de tous les jours ? Hein, parlons concret, parlons du monde, parlons de cette illusion que nous vivons. Nous sommes un, nous ne le voyons pas par nos sens. Par nos sens, nous sommes divisés. Nos sens nous montrent ce que nous croyons. D'ailleurs, il y a dans la série des publicités inspirées, J'ai vu cette semaine, la semaine dernière, c'est souvent les publicitaires hein, qui amènent des belles phrases inspirantes. Là, il y a longtemps, j'avais vu une publicité pour une voiture, « La joie célèbre la beauté ». C'est magnifique. Et puis récemment, je ne me rappelle plus le sujet, mais en fait le sujet n'est qu'un prétexte, c'était... Il faut y croire pour le voir. Et c'est exactement notre expérience humaine. Hein. Nous croyons et donc après nous voyons. Nous sommes la cause et pas l'effet. Donc lorsque nous croyons suffisamment à quelque chose, nous le voyons. Et ça marche pour nous sommes un. Ça marche de la même manière que ça marche pour nous sommes divisés. Hein. Quand nous le croyons, nous le voyons aussi. Nos yeux, en effet, comme nous le rappelait Sylvain, sont faits pour ne pas voir la vérité, pour ne pas voir l'unité de toute chose. Alors, dans notre vie de tous les jours, nous sommes un, c'est changer son regard sur le passant que je croise, changer mon regard sur la caissière du supermarché ou le caissier. Le voir comme un être d'amour, qui joue son rôle de séparation. Voir en lui le divin parfait, hein, voir celui qui est devant moi à la caisse ou derrière moi comme le divin parfait. Ne voir en lui que sa lumière, quelle que soit la facette qu'il me montre. Évoluer dans un monde où chaque personne rencontrée dans le métro est une incarnation divine lumineuse. mais je dois le choisir. C'est ça le libre arbitre et c'est ça l'expérience humaine. Je fais des choix. Pourquoi est-ce que le libre arbitre fait partie de l'expérience humaine ? Parce que dans l'unité, il y a aucun choix. Dans l'unité, seul Dieu est, le seul dernier est, et cela ne change jamais. Donc, il n'y a pas à choisir entre les bons parents et les grecs, parce que nous sommes le royaume de Dieu. Donc, nous sommes dans le monde du choix. Et nous avons le choix, autant que nous voulons, pour choisir la peur, tirer les enseignements de la peur, voir si ces nous conviennent, voir si la réalité que nous fabriquons, nous avons envie de prolonger l'expérience, ou voir si ça suffit comme ça. Et à ce moment-là, quelqu'un me fait vivre une expérience négative, je continue de le voir comme un frère d'amour et de lumière. Je continue à voir le rôle plutôt que la situation, le rôle qu'il joue. C'est-à-dire que j'entraîne mes yeux à voir au second degré. Le premier degré est le degré de la séparation. Pour nous qui avons un esprit divisé, le second degré est le degré au-dessus duquel je passe pour interpréter la situation. Pourquoi ce frère d'amour divin que je vois dans sa lumière a choisi de me faire vivre cette expérience ? Eh bien, pour que je puisse répondre par l'amour, répondre par la lumière que je vois émaner de lui. Alors, bien sûr, je l'imagine. Dans notre monde, nous passons par l'esprit mental, et de manière à rejoindre progressivement l'esprit unifié, l'esprit qui ne voit plus la séparation. Alors ça passe dans un premier temps par le mental, mais le mental peut tout à fait être à notre service. Le mental n'est pas notre ennemi. Le mental est une croyance, et je peux disposer de mes croyances comme j'ai envie pour façonner le monde, pour changer ma vision du monde. Alors je m'entraîne avec la caissière. Je m'entraîne à avoir mon regard qui se pose sur elle ou sur lui, et à voir l'être divin qui se cache dans le corps humain, et à voir l'humanité, même derrière le stress, même derrière l'impatience, même derrière la colère. Je passe par-dessus, je regarde par-dessus ces obstacles. Bien sûr, si je m'arrête à ces premiers éléments, je vais mal interpréter le message. Je vais l'interpréter avec l'esprit séparé, et je vais générer encore une expérience de souffrance et de douleur avec l'esprit séparé. Ces expériences aussi nous servent à faire plus tard les bons choix. Parce que combien de fois je peux faire une expérience qui ne me rend pas heureux jusqu'à ce que je décide que c'est moi qui choisis l'expérience qui, elle, me rendra heureux. Jusqu'à ce que j'ai conscience que je crée le bonheur ou le malheur en fonction de mes choix, et que le paradis c'est maintenant, l'enfer c'est maintenant. Alors moi récemment, j'ai passé en revue certains éléments de ma vie anodins ou pas anodins qui m'ont amené à faire des choix. Par exemple, j'étais en Hollande et j'ai commandé plein de céramique. Et comme j'étais en vélo, j'ai dit envoyez-moi les par la poste. J'avais négocié que les frais de port étaient gratuits si j'achetais un certain montant. Et j'avais envie d'amener la boutique entière avec moi. D'ailleurs, plein d'éléments qui sont chez moi viennent de là-bas. Alors, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, le colis est arrivé. Et dans le colis, ce à quoi j'aurais pu aussi m'attendre, il y avait des objets cassés. Voilà, première réaction, aïe aïe aïe. Deuxième réaction, est-ce que c'est assuré? Troisième réaction, j'appelle le vendeur. Ça semble compliqué. Et puis j'arrête là le premier degré. Je décide d'arrêter là le premier degré. Je me dis en mon fort intérieur, j'ai décidé d'avoir quelques très belles céramiques chez moi. Alors j'en ai. Hein. Une partie d'elles est arrivée en morceaux. Est-ce que je suis moins heureux pour ça? Est-ce que je décide de me focaliser sur cet aspect qui me déplaît? Ou est-ce que je me réjouis que toutes les autres soient arrivées à bon port? Et les discussions avec le vendeur sont arrivées rapidement à une impasse qui, je sais, quelques années plus tôt, m'aurait conduit à un conflit avec lui. Et je me suis rappelé cette phrase, est-ce que je veux être heureux ou est-ce que je veux avoir raison? Et j'ai décidé d'être heureux. C'est-à-dire que je l'ai remercié d'avoir emballé les choses de manière à ce qu'elles arrivent correctement. Je l'ai remercié pour tout le soin qu'il a mis à faire les colis et à me les envoyer en accord avec ce que nous avions décidé ensemble. Parce que je lui faisais confiance, il aurait pu ne pas m'envoyer les choses, je les avais payées. Et je l'ai vu dans sa lumière, malgré tout que j'ai pu vivre au premier degré, je l'ai vu dans sa lumière et j'ai décidé que cette expérience-là n'avait pas le pouvoir de me rendre malheureux. Et je l'ai béni pour m'avoir procuré une expérience dans laquelle le pardon véritable a pu s'exercer. Le pardon véritable, c'est ce que je crois que mon frère m'a fait ne s'est pas réellement produit. En fait, il m'a produit une expérience où j'aurais pu porter et perdre mon paix et où j'aurais pu rester tranquille en me disant « Tu es un frère d'amour, tu es un frère, je reconnais ta lumière, je n'oublie pas qui tu es et je ne laisse pas cet apparent désagrément gâcher mon bonheur. » À partir de ce moment-là, j'ai fait ce rituel de pardon et quand je me rappelle aujourd'hui cet événement, il est complètement transparent, il est complètement non douloureux. Alors que j'aurais pu traîner ça des années avec moi. J'aurais pu avoir des regrets, j'aurais pu avoir un désir de revanche. J'aurais pu demander justice, hein, obtenir des dommages et intérêts. Mais j'ai décidé que tout ça ne me rendrait pas heureux et que c'est pas cette méthode, cette interprétation-là que je fais de cet événement. Et ce que je vois, c'est que c'est réglé, c'est vraiment réglé. C'est-à-dire que ça ne fait plus éruption dans mon esprit en tant que souffrance. Parce que j'ai décidé. Hein. Ça peut être un exemple anodin, pas très important en vérité. Tout ça c'est symbolique. Hein. Quel que soit l'événement, quelle que soit l'action du frère qui est en face de moi, est-ce que je me rappelle qui il est? Est-ce que je me rappelle l'être divin qu'il est, qui joue un rôle dans la pièce de théâtre en particulier, pour me dire, maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Et est-ce que cette question, elle est là, en moi, avant que je choisisse la colère? Est-ce que cette question, elle est là en moi, lorsque j'ai encore le choix? Et les expériences négatives, les comportements divers que j'ai eus dans ma vie m'ont fait attendre un petit instant avant de choisir la colère. En fait, lorsque l'huile sur le feu commence commence un peu à baisser en intensité, c'est à ce moment-là que je me dis, qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est dans ce feu, ce feu et cette flamme? Ou est-ce que c'est bien si le feu s'éteint? Et puis, me pardonner d'avoir allumé le feu. Parce que j'ai allumé le feu. Le feu de ma colère, le feu de ma suspicion, le feu de mon jugement, tout ça c'est des flammes. Hein. Tout ça c'est les flammes de l'enfer pour moi. Parce que c'est un poison que je décide de fabriquer et de faire couler dans mon sang sous la forme d'hormones qui me disent vas-y, attaque, vas-y, sens-toi mal. Mais qu'est-ce qui génère ce poison? Mon choix. Si je choisis le pardon, je choisis l'amour, je ne peux pas avoir des hormones d'attaque hein, à l'intérieur. Si je choisis la colère, alors c'est l'usine à poison qui se met en route. J'ai mis longtemps avant de comprendre que lorsque je rentrais dans la haine, je m'empoisonnais moi-même. Et ce n'était pas à l'autre que je faisais du mal, c'est à moi que je faisais du mal. Ce jour-là, j'ai dit, j'arrête avec ça. Et en fait, c'est un choix tout à fait égocentré. C'est-à-dire, je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour arrêter de projeter la haine sur l'autre, je le fais par amour pour moi-même. Et en vérité, il n'y a que ces choix-là qui se font. Qu'est-ce que je choisis pour moi ? Est-ce que je choisis la souffrance maintenant pour moi, ou est-ce que je choisis la paix et l'amour pour moi? Et c'est illusoire de penser que lorsque je juge quelqu'un, je lui fais du mal. Lorsque je hais quelqu'un, je lui fais du mal. En vérité, je me fais du mal à moi-même. En vérité, il n'y a pas d'autre. Tout ce que je pense faire à l'autre, je me le fais à moi-même, et l'autre, dans ce monde... Et représente un parfait miroir, hein. C'est-à-dire que tout m'est renvoyé, tout m'est reflété, tout ce que je projette me revient. Et donc, quand je sais ça, et que je projette de l'amour, je sais que je vais recevoir de l'amour. C'est pour ça que j'en donne pour en recevoir. Et c'est toujours pour moi que je le fais, parce que... Lorsque je le fais pour moi, je le fais aussi pour toute la fidélité, pour tous ceux qui sont apparemment en face de moi, mais qui en vérité sont un hologramme qui est contenu en moi. Tout le monde entier est en moi, réside en moi. Et donc j'ai pas besoin de m'occuper de l'extérieur, mais seulement de l'intérieur quand je fais ça. Donc chaque fois dans ma vie que je croise quelqu'un, je fais un choix. Est-ce que je le juge? Trop ceci, pas assez cela, sympathique, pas sympathique, ayant des idées politiques correctes, incorrectes, ou est-ce que je l'accueille bras ouverts, esprit ouvert, inconditionnellement, tel qu'il est, quelle que soit sa place, sa fonction, les mots qu'il emploie inconditionnellement. Et en faisant ça, c'est les hormones de l'amour hein, qui coulent en moi. Et c'est le Saint-Esprit que je rejoins, puisque le Saint-Esprit me guide toujours vers des pensées qui interprètent correctement la situation, contrairement à l'ego. Voilà, donc nous sommes un, c'est une réalité que je peux vivre tous les jours dans mon hologramme intérieur de toute l'humanité. Chaque être que je croise, c'est moi. C'est moi, et donc si je veux m'envoyer de l'amour, je peux aussi bien lui envoyer de l'amour, et je le reçois. Et c'est pour ça que dans le cours est dit que donner et recevoir sont en fait une même action. Même si dans notre monde, nous le pensons différemment. Voilà comment nous pouvons nous entraîner dès la minute prochaine dans notre existence. Dès la seconde prochaine, nous pouvons nous entraîner, même en imagination. Et si j'acceptais de voir l'autre comme un être vivant, lumineux, et qui n'est là que pour m'aider à rayonner l'amour. Et s'il est là pour m'aider, assurément, il est là aussi dans un but d'amour, quelle que soit la forme qu'il emploie pour mettre à profit ce but et cette action.
Il me vient très clairement de parler de quelque chose qui nous est souvent très difficile d'admettre dans certaines situations. Et c'est, je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Dieu ne doit rien à lui-même. Dieu est tout. Je ne dois rien à mes enfants me doivent rien, rien à mes parents, je ne dois rien à la société, je ne dois rien à personne, et la société, mes parents, les enfants, n'importe qui ne me doit rien. C'est fondamental. Pourquoi ? À cause de qui nous sommes. Ah mais quand même, on va dire, mais écoute, ici il y a des enfants, il y a un minimum à faire. Non. Effectivement, je m'aperçois que je vais faire les courses, que mes enfants, j'ai acheté une maison, et puis ils sont là, ils ont leur chambre, par exemple. Je m'en occupe apparemment, c'est-à-dire que je dépends de l'énergie, quelque chose qui passe autour de moi. C'est mon rôle de parent, par exemple. Très bien. Mais je le fais parce que je le fais, c'est tout. Parce que c'est mon chemin. Je ne dois rien à mes enfants. J'ai pris cet exemple-là, mais c'est comme ça pour tout. Je fais ce que je sens. Ce qui est important, c'est pas ce que je fais, c'est l'esprit avec lequel je le fais. L'amour est libre. Si je pense que je dois quelque chose à quelqu'un, même mes enfants, je ne suis pas libre. Si je pense que mes enfants me doivent quelque chose, je ne donne pas qui ils sont à mes enfants, je ne leur donne pas la liberté qu'ils sont. Alors on va dire, oui mais regarde, écoute, un peu écouter ce qui se passe dans les écoles, même quand l'enfant est tout petit, on lui apprend, mais tu dois faire ceci, tu dois faire cela, c'est ça. Oui, absolument, c'est vrai. Eh bien ce sont que des mensonges. Mais c'est comme ça, c'est bien de l'ego ici. Et l'enfant a choisi de venir, comme moi j'ai choisi de venir dans ce monde. Et nous avons choisi une expérience d'ego, bien sûr. Nous avons choisi une expérience de venir sur cette planète bleue, cette planète humaine, où un libre arbitre est donné extrêmement, avec un degré formidable, et où, effectivement, il y a apparemment une très forte lourdeur dans l'apparence. Nous avons tous décidé de jouer ce jeu. Et dans ce jeu, effectivement, on a créé justement des droits, des devoirs, on fait des codes civils, des codes du droit administratif, du droit de société, du droit de ceci, cela, du droit du peuple à s'autogérer, etc. Tout ça, c'est des règles qui viennent de l'ego. L'amour n'a aucune règle. L'amour est amour, c'est tout. Il est totale liberté. Le cours en miracle nous dit bien, Dieu est liberté. God is freedom. Et tout le monde, mes frères, mes sœurs, n'importe quel être ici sur cette planète, est liberté. Et Dieu est la lumière. Et l'expression divine, la manifestation de la source, la manifestation du Père. Donc, je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien, c'est pas pour ça que je ne vais pas ne pas agir. Mais j'agis libre. J'agis parce que et c'est plus mon mental, c'est plus le raisonnement qui me guide, c'est mon cœur. Et oui, mais les autres ne vont pas être d'accord, les autres ne vont pas d'accord, ça ne concerne que moi. J'ai pas besoin d'annoncer. J'ai pas besoin d'aller le dire à mon conjoint, à mes enfants, à je ne sais qui, ou à la société, ou au fisc. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, si je veux pas payer mes impôts, ben éventuellement, ben je vais peut-être en prison, etc. Mais c'est mon choix. Mais je dois rien à personne. Et pourtant, je paye mes impôts. Et pourtant, si je m'arrête à une pompe à essence, je paye. Pourquoi ? Parce que je sens de le faire, c'est tout. Et tout à l'heure, j'ai cité l'exemple où j'ai vu un portillon s'ouvrir où j'ai pas payé mon transport en commun parce que ça s'est passé comme ça. J'aurais pu le payer, je suis riche. Ça n'a aucune importance. Je ne l'ai pas fait par économie, je ne l'ai pas fait pour prendre. Ça s'est passé, j'ai rien fait. Et donc je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Et on ne fait en réalité rien. On croit faire quelque chose. Mais qui croit faire ? L'ego, l'illusion. En réalité, effectivement, je laisse l'esprit vivre ma vie. Et je constate que tout est comme ça pour tout le monde. Mais mes frères et sœurs, pour la plupart, n'en ont pas conscience. C'est ce que dit le courant miracle, on dit de cette fameuse phrase dans la leçon 135, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tout événement, passé, présent, futur, tout est planifié avec amour et bienveillance par l'esprit dont le seul but est ton bien et le bien de tous. Hein, c'est pas dit exactement comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Tout est planifié. Si tout est planifié, qu'est-ce que je fais personnellement ? Rien. Et qu'est-ce que mes frères et sœurs font personnellement ? Rien. C'est la même chose. Donc si j'ai des enfants, si je suis un parent, si j'ai des parents, si j'ai des amis, etc. Et là, je pense au monde. Les gens ont faim partout. Les gens se plaignent qu'ils n'ont pas assez à manger, qu'il y a des malnutritions, etc. Qu'est-ce que je fais ? Je fais ce que je suis guidé à faire. Mais ce qui est important, c'est avec quel état d'esprit je le fais. Et c'est un état d'esprit, c'est pas un faire. Après ça, si je sens d'aller chez Médecins Sans Frontières, si je sens d'aller, faire une action, je vais le faire. Mais je vais le faire parce que mon cœur me le dit, c'est mon intuition, j'ai envie de faire ça. Mais je ne dois rien à personne, puisque chaque être a choisi son expérience. Donc quand il y a une catastrophe quelque part, mettons un cataclysme, un tremblement de terre, certaines personnes y vont, ils sont guidés, et voilà. On peut dire, oui, mais tu peux pas y aller parce que mais tu peux donner de l'argent. Oui, effectivement, je peux donner de l'argent, je peux envoyer de l'argent. Qu'est-ce que je ressens ? Je ne dois rien à personne. Oui, je sens d'envoyer de l'argent. Combien ? Ben j'écoute, je sens d'envoyer 100 euros. Au contraire, je ne sens pas. C'est mon affaire. Mais je le fais libre. Et si j'envoie 100 euros, c'est libre. Et je ne sens personne. Et si j'envoie 1000 euros, c'est pareil. J'envoie 1000 euros parce que je le sens, mais c'est libre, je suis libre, je ne dois rien à personne. Et personne ne me doit rien. Comment personne ne te doit rien ? Mais tu as peut-être des prêts bancaires, etc. Oui, effectivement, mais j'ai ces prêts bancaires libres. J'ai choisi cette expérience, c'est tout. Oui, mais si tu ne payes pas, tu vas peut-être... Oui, peut-être, mais je suis libre. Et si je vais en prison, j'y vais libre. Et personne ne peut me prendre cette liberté, car je suis liberté. Je suis divin, comme tous mes frères et sœurs. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment là que ça se passe. Donc, je ne dois rien à personne et personne ne doit rien. À cause de tout, c'est tout. Ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, je vais faire les choses librement. Et ma vie devient un champ, devient une merveille. Devient un émerveillement permanent, une occasion d'exprimer de l'amour, d'être dans l'amour, de vivre l'amour, de partager l'amour. Effectivement, je redonne, c'est le namasté, je redonne à mes frères et sœurs qui sont. Donc mes enfants, c'est namasté. Mon fils, ma fille chérie, ben je t'aime, tu sais, etc., mais tu vas très bien. Ok, voilà, tout va bien. Et quand quelqu'un m'appelle à l'aide, ce qui n'arrive pas, on m'appelle, on me téléphone, on me demande une aide, des situations très désespérées, je réponds à la personne d'une certaine manière, comme je suis guidé. Quelquefois même j'ai les larmes aux yeux, et profondément je sais qu'elle va très bien. Je lui redonne à cette personne qui elle est vraiment. Ce qui n'empêche peut-être que je vais aller, elle va venir me voir, qu'on va travailler ensemble, peut-être, oui. Pourquoi pas ? Mais donc, personne ne me doit rien et je ne dois rien à personne.
Alors, je suis guidé à aborder une question qu'on aborde de temps en temps, c'est la présence extraterrestre sur Terre et notre contact avec les extraterrestres. Et je le relie à la non-dualité parce que c'est un mouvement qui va vers une augmentation de la conscience, une expansion de la conscience. Jusqu'à présent, beaucoup d'informations concernant les témoignages ovnis ou autres étaient étouffées ou et nos frères de l'espace sont autour de nous, présents, nos visibles dans l'invisible. Et d'après eux, ils ne peuvent pas intervenir tant que nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Parce qu'on va accepter simplement l'idée qu'ils existent, que cette vie est possible en dehors de la Terre. Et donc c'est une question de niveau de conscience. Est-ce que j'ai l'esprit assez ouvert pour me dire que dans les 240 millions milliards d'étoiles qui sont dans notre galaxie, seulement la Voie lactée, il y a des formes de vie plus évoluées que nous, qui ont quelques milliers d'années ou millions d'années d'avance, et qui ont pu arriver à un état où la conscience et l'amour sont plus développés, comme des grands frères, et qui pourraient nous aider, nous tendre la main pour que nous aussi, nous faisions partie de cette grande famille. Alors il y a une loi de non-ingérence dans la galaxie qui dit qu'ils ne doivent pas interférer directement sur une planète d'un niveau d'évolution inférieur. Parce que chaque peuple a ses expériences à faire. Alors, pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'il semblerait qu'il y a un changement de niveau de conscience dans le monde qui commence à permettre que certaines émissions qui revisitent notre histoire ancienne soient accessibles et disponibles sur la télévision, dans certaines chaînes, comme History, enfin je crois que c'est américain à la base. Mais la chaîne History, ça veut bien dire qu'on réintègre ça à notre histoire. Et puis, d'autres séries documentaires, mais c'est visible en grande partie sur Internet, au travers de YouTube et Dailymotion. Et le fait même que ces séries soient disponibles, pour moi, montre que il y a pourcentage de l'humanité qui a l'esprit suffisamment ouvert pour les accueillir. Ce sont des séries de vulgarisation où les choses sont abordées très progressivement, mais où certaines questions sont posées. Se pourrait-il que nos ancêtres aient été extraterrestres, soient venus d'ailleurs ensemencer la Terre ? Se pourrait-il que notre code génétique ait été modifié par des extraterrestres. Tout est posé sous forme très libre, sous forme de questionnement. Et il y a, je dirais, entre 50 et 100 vidéos, et ça m'a l'air comme une vague massive d'informations qui n'existait pas il y a peu de temps. C'est pour ça que je le mentionne. Ça mentionne une évolution du fait que l'humanité, d'une part, commence à être préparée à un contact extraterrestre, à une réintégration dans une famille galactique, mais aussi que nous sommes le niveau de conscience de l'humanité peut permettre que cette préparation se fasse. Parce que si c'était très réticent ou très heurtant pour la plupart des humains, ces séries n'auraient pas pu ni naître, ni être financées, ni continuer. Et tout ça c'est actuellement fait. Donc il y a plusieurs titres pour ceux que ça intéresse. Donc c'est en partie en anglais, mais certaines séries ont été sous-titrées français et d'autres aussi doublées en français. Donc ça parle français directement. Et donc une des séries c'est Ancient, A-I-N-C-I-E-N-T, Aliens, A-L-I-E-N-S, Ancient Aliens, les séries. Donc il y a des émissions de 50 minutes ou d'une heure 30, et dont le premier épisode s'intitule Ancient Aliens, les preuves. Hein, donc tous les témoignages dans notre histoire et même dans les anciens écrits des traditions hindouistes, il y a des passages qui relatent les technologies et les guerres nucléaires qui ont eu lieu dans le passé sur Terre il y a plusieurs milliers d'années. Et puis il y a aussi une autre série qui s'appelle, mais c'est exactement la même démarche, Alien Theory, avec un Y à la fin de théorie. Et beaucoup de sujets sont abordés, les vortex, les points de passage entre plusieurs dimensions sur Terre. Donc c'est, même si c'est de vulgarisation, il y a des infos qui sont très utiles et j'ai appris aussi des choses dans ces séries. Alors, il semblerait que ces frères de l'espace en provenance de cette galaxie et d'autres soient dans une certaine mesure autorisés à intervenir à partir du moment où notre libre arbitre sur Terre n'est pas respecté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ces sociétés humaines que l'on vit, il y a beaucoup de mise en esclavage, hein, qui peut se ressentir par une privation de beaucoup de liberté. Et donc, il y a un ensemble de lois galactiques qui autorisent ces frères de l'espace à venir rétablir un certain équilibre lorsque ces lois sont violées. Et peut-être ces séries sont-elles là pour aussi rendre ce premier contact plus facile pour nous, simplement envisageable, hein, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la théorie officielle, c'était plutôt que ce sont des êtres qui nous envahir, nous dominer, qui sont là pour contrôler et prendre possession de la Terre d'une manière négative. Voilà, donc pour moi, il n'y a rien qui se passe sur l'Internet, dans le courant de pensée, dans la presse, qui ne soit pas révélateur d'un état de conscience. Et je tenais à souligner que ces séries, qui datent de peut-être maximum 2 ans, sont un révélateur pour moi de choses qui bougent au niveau des consciences. Peut-être aussi sont-elles l'effet de frères de l'espace qui sont venus expérimenter une incarnation humaine pour aider l'humanité depuis l'intérieur. Et il semblerait qu'il y en ait plusieurs milliers sur Terre et qui sont un peu des alliés terrestres de frères extraterrestres. Voilà, tout ça avec ton libre arbitre au niveau de la visualisation, de l'écoute. Moi, j'ai senti que le moment des grandes retrouvailles s'approche, hein, parce que cette vérité ne pourra pas être niée beaucoup plus longtemps. Il semblerait que ce soit actuellement que nous soyons proches de la vérité. Voilà, je pense que c'est la fin. Oui, donc dans la joie d'un prochain partage, je vais sonner l'unité de qui nous sommes dans cette unité des consciences qui écoutent ce son.